scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 158 pour le samedi 5 mai 2012. Les superstitions. Aujourd'hui, je vais couvrir le chapitre 4 du livre consacré à la psychologie anomalistique, donc qui s'intitule en anglais Anomalistic Psychology, et c'est un chapitre qui est consacré à la croyance dans les superstitions. Je pense qu'il a été rédigé par David Luke, qui n'est pas du tout un sceptique du paranormal. Et donc il commence par discuter de la question de la définition, c'est quoi la superstition, et par nous dire que c'est un concept relativement difficile à définir. Mais on peut en retirer l'idée que la superstition a à voir avec la chance. Donc ils discutent de différentes définitions, et moi je vais vous proposer une bon, qui me semble être la plus claire dans celle qu'ils proposent. C'est celle de Talbourne en 1997. Il définit la croyance dans les superstitions comme étant la croyance qu'une action donnée pourra amener de la chance ou de la malchance lorsqu'il n'y a pas de raison rationnelle ou généralement acceptée pour une telle croyance. Donc des exemples de comportements superstitieux dans la culture occidentale, c'est par exemple toucher du bois, que font aussi les anglo-saxons en disant knock on wood. Je pense que c'est même plus courant chez eux que par chez nous, mais enfin là c'est un peu à vue de nez que je dis ça, j'ai pas vraiment de chiffres. Et ou encore passer sous une échelle porte-malheur, ou voir un chat noir porte-malheur, trouver un trèfle à quatre feuilles porte-chance, etc. Donc on voit que c'est une façon de contrôler la chance et la malchance. Alors bon, ça peut paraître un peu trivial, parce qu'on a l'impression que les superstitions ont disparu. C'est vrai qu'au début du XXe siècle, l'idée des rationalistes était de faire disparaître la superstition. Mais en réalité, les gens ont encore énormément de comportements superstitieux. Ça s'observe par exemple particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau, où les athlètes, on observe que par exemple, ils vont porter le même caleçon par exemple pendant toute la saison, parce qu'ils ont l'impression que ça va leur porter chance. Ou par exemple leurs chaussettes sans les nettoyer, parce que si on les nettoie, la chance en partirait. Il y a des tas de comportements comme ça, superstitieux, chez les athlètes de haut niveau. On va justement voir un peu pourquoi ils seraient plus enclins que le reste de la population à être superstitieux. Mais donc dans ce chapitre-là, ils discutent de différentes explications, théories autour de la croyance dans la superstition. Donc il y a d'abord l'approche comportementaliste, ou behaviorist si vous préférez. L'approche anthropologique qui parle plutôt de pensée magique. Et puis il dit un mot de la théorie dite de l'activisme instrumental. Ensuite de la notion d'illusion de contrôle. Et enfin il parle de l'approche parapsychologique. Donc discutons de l'approche comportementaliste, qui est la plus ancienne, c'est pour ça qu'il en parle en premier. Donc là, on revient à l'expérience de B.F. Skinner. Donc vous savez que les comportementalistes considéraient qu'on ne pouvait pas vraiment étudier la conscience, c'était une boîte noire, on ne peut étudier que les comportements. Et Skinner a fait pas mal d'expériences où il travaillait donc sur le conditionnement opérant, c'est-à-dire on renforce un comportement en donnant des récompenses. Par exemple, votre chien vient toujours réclamer de la nourriture près de votre table. Pendant le repas, si vous lui donnez de la nourriture, vous renforcez le comportement. Il va avoir de plus en plus tendance à venir près de la table pour quémander de la nourriture. Donc la meilleure stratégie, c'est simplement de ne rien lui donner. Si quand il émet un comportement, vous lui donnez une récompense, par exemple de la nourriture, à ce moment-là, vous allez renforcer son comportement et il va l'émettre de plus en plus. Donc B.F. Skinner faisait ça avec des pigeons, donc il mettait des pigeons dans des cages et alors il avait un distributeur de nourriture. Et quand le pigeon émettait le comportement désirable, la machine donnait de la nourriture automatiquement. Et donc on voyait que le pigeon émettait de plus en plus le comportement qu'il associait avec le fait de recevoir une récompense. Et donc, bon, l'histoire raconte qu'un jour, Skinner avait laissé l'appareil branché, et donc les pigeons continuaient à recevoir de la nourriture, mais de manière aléatoire. Donc sans qu'il y ait vraiment de raison, donc, il n'y avait pas de comportement observé qui était renforcé par l'expérimentateur. Les pigeons émettaient toutes sortes de comportements, et puis de manière aléatoire, ils recevaient de la nourriture. Mais le lendemain, donc, quand Skinner serait venu, toujours selon cette histoire, il aurait constaté que toutes sortes de comportements bizarres étaient émis par les pigeons, par exemple, bouger la tête d'une certaine façon, ou lever l'aile d'une certaine façon. C'est parce qu'ils avaient associé ces comportements de manière superstitieuse, justement, avec le fait de recevoir la nourriture. Le pigeon qui levait de l'aile, il avait levé l'aile une fois, alors que par hasard, la nourriture était arrivée à ce moment-là, et il pensait donc que le fait de lever l'aile augmentait les chances qu'il allait recevoir une récompense, alors même que la nourriture était reçue de manière purement aléatoire. Et donc c'est de là que vient l'idée que ce genre de conditionnement opérant, cette façon génère ou crée, ça expliquerait l'apparition de comportements superstitieux. Alors il y a deux critiques qui sont émises dans le livre. La première, c'est que certaines expériences ont tenté de faire la même chose avec des êtres humains, même si c'est plus difficile. Donc on demande aux êtres humains de faire des actions, et on leur donne des récompenses, mais de manière aléatoire, et on voit s'ils émettent certains comportements, donc pour essayer de contrôler l'apparition de la récompense. Mais ce que dit l'auteur donc, de ce chapitre dans Psychologie anomalistique, c'est que la validité écologique des études behavioristes est faible, c'est-à-dire que c'est une situation très artificielle. Est-ce que ce qu'on observe avec les pigeons peut vraiment se transférer sur les êtres humains, et les situations dans lesquelles on met les êtres humains, est-ce que ça peut vraiment se transférer dans la vie de tous les jours? C'est ce qu'on veut dire quand on dit que la validité écologique est faible, c'est-à-dire que c'est une situation trop artificielle pour qu'elle puisse vraiment être transférée vers dans la vie de tous les jours. De plus, la deuxième critique, c'est que ça pourrait expliquer éventuellement comment les superstitions commencent. Par exemple, le pigeon lève l'aile et puis il reçoit par hasard de la nourriture. Il y a une association qui se crée, il va apprendre la superstition que lever l'aile apporte de la nourriture, alors que c'est pas vrai. Mais le problème, c'est que dans le monde extérieur, lorsqu'un individu émet un comportement superstitieux, il n'est pas récompensé de manière aussi évidente. Par exemple, vous avez une échelle devant vous et vous dites « Ah ben non, passer sous une échelle apporte de la... Enfin, ça rend malchanceux. » On ne passe pas sous l'échelle. Et puis la journée se déroule normalement. Il n'y a pas de récompense évidente. C'est pas aussi clair que j'émets un comportement et je reçois ou non de la nourriture. Alors la deuxième explication proposée, donc, c'est du côté de l'anthropologie avec Malinowski, qui est donc un anthropologue très très célèbre, et c'est lié au concept dit de pensée magique. L'idée de Malinowski, c'est que la superstition est une action ayant pour but de réduire l'anxiété générée par une activité stressante. Donc on doit faire quelque chose de particulièrement stressant, et on va émettre ces comportements superstitieux pour diminuer l'anxiété qu'on éprouve vis-à-vis de cette activité. Alors pourquoi est-ce que Malinowski a émis cette idée? C'est parce qu'il a observé certaines choses dans les populations qu'il observait en tant qu'anthropologue. Par exemple, si on prend des occupations, des métiers à risque, donc ici il cite l'exemple de la pêche en eau profonde, chez les gens qui ont ce type de métier-là, particulièrement risqué, on observe plus de comportements superstitieux. Si on se base sur cette idée-là, on peut faire des prédictions qui ont été validées empiriquement. C'est que à l'université, les étudiants vont émettre beaucoup plus de comportements superstitieux durant la période des examens qu'en dehors de la période des examens. Un autre exemple qui peut être vérifié, c'est aussi que les gens qui vivent dans des zones où on risque des bombardements, donc des zones de guerre, ils vont émettre plus de comportements superstitieux que des personnes qui vivent dans des zones où règne la paix. Et donc, on peut dire que, on observe, si on se met dans cette perspective, les sportifs ont plus de comportements superstitieux parce qu'ils sont, ils ont un métier particulièrement stressant, bon, avec les championnats, etc. Ils sont sous pression constante de faire des bons scores s'ils veulent garder leur métier, enfin leur salaire mirobolant. Et donc, à cause de ce stress intense qu'ils subissent, ils ont tendance à émettre plus de comportements superstitieux que des gens qui ont des métiers plus banals. Alors, une autre explication qui est proposée, c'est l'idée, donc c'est un concept qui est activisme instrumental. Alors, l'idée là, c'est que dans la culture occidentale particulièrement, on a cette idée que les gens doivent persévérer. Les gens sont actifs, proactifs, on doit faire des choses. Et donc les gens émettent des comportements superstitieux, même sans vraiment y croire, juste parce que ça leur permet de, entre guillemets, faire quelque chose. Ils ont l'impression qu'ils sont actifs, ça les met dans une position d'acteur. Et là, évidemment, l'important, c'est d'émettre un comportement, de faire quelque chose, et donc, de manière interne, ils y croient ou pas, n'a pas vraiment d'importance. Et je pense que ça, c'est une idée intéressante, parce que quand je vivais au Japon, j'étais entouré d'Américains, et ça leur arriverait souvent de dire « knock on wood, touchons du bois », et en le faisant de toucher du bois, à propos de sujet, du boulot, etc., probablement que si je leur avais demandé verbalement « Est-ce que vous croyez vraiment que toucher du bois va vous apporter de la chance ou écarter la malchance ?» Ils m'auraient dit « Non, bien sûr que non. » Mais ils émettent quand même le comportement. Alors l'explication abordée suivante, c'est la notion d'illusion de contrôle. Donc on a déjà parlé dans les épisodes précédents. Et là, c'est l'idée que via la superstition, les individus ont l'impression de pouvoir contrôler les situations qui ne sont en réalité déterminées que par le hasard. Donc ça donne à la personne qui émet le comportement superstitieux une illusion de contrôle. Donc par exemple, là encore au Japon, il y a pas mal de gens qui jouent à un jeu qui s'appelle le pachinko. Voilà, c'est une sorte de... Enfin, c'est une sorte de billard... de pinball vertical, où on met juste une boule en haut, la boule tombe, et puis il y a des encoches comme ça, et puis elle tombe selon une certaine trajectoire qui est évidemment largement due au hasard, et puis en fonction on obtient des résultats. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on puisse faire pour influencer la trajectoire de la balle de manière objective. Mais le pachinko est malgré tout extrêmement populaire au Japon, incroyablement populaire. Mais alors évidemment les gens vont émettre des comportements superstitieux pour essayer d'influencer la trajectoire de la balle. Et donc ça augmente leur impression de contrôle perçu. Ça leur donne une illusion de contrôle, ça leur donne l'impression qu'ils peuvent gagner le pachinko, qu'ils peuvent influencer la trajectoire de la balle, alors qu'en réalité, celle-ci est due au hasard. Alors par rapport à l'illusion de contrôle, David Lu, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment un sceptique. Donc là, la critique qu'il donne, c'est que la plupart de ces situations sont susceptibles d'être influencées par le psy. Donc, par d'authentiques processus paranormaux. Et donc, on parle d'illusion de contrôle, là où en fait, et c'est la dernière approche, donc l'approche parapsychologique, là où en fait, il se pourrait que, via la superstition, les gens aient réellement un impact sur le monde extérieur. Donc l'approche parapsychologique, qui est la dernière abordée dans le chapitre, dit en réalité, vous savez, pour les parapsychologues, les tenants d'authentiques phénomènes paranormaux, il y a des sujets qui seraient particulièrement doués, bon, les médiums, Zappia Paladino, Daniel Douglas Home, je sais pas, John Edward maintenant, Uri Geller, c'est des gens qui auraient des facultés extraordinaires, hors du commun. Dean Radin prend souvent l'analogie d'un joueur de violon, je pense, parce que Dean Radin lui-même joue d'un instrument, si mes souvenirs sont bons. Ce seraient des violoncellistes experts, mais dans l'usage du psy. J'ai toujours d'ailleurs trouvé que cette analogie était très problématique. On vous dit, voilà, tout le monde ne joue pas du violon au même niveau, il y a des gens qui ne savent pas jouer du violon, il y a les gens qui jouent un peu de violon, et puis il y a des bons joueurs de violon, et puis il y a des gens qui sont des prodiges au violon. Bon, les médiums seraient des prodiges au violon. Daniel Douglas Home, c'est un prodige, ou Alexis Didier, le médium favori de Bertrand Meu, serait un prodige du violon, par exemple. Ça paraît, quand on la lit comme ça, on se dit, ah, c'est une analogie qui tient bien la route, hein, voilà. Il y a des gens qui sont moins doués et des gens qui sont plus doués. Oui, mais le problème, c'est que on ne peut pas améliorer les performances au psy. Comment est-ce qu'on devient un joueur de violon expert? Ben, en s'entraînant, en pratiquant beaucoup. Oui, mais avec le psy, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez vous entraîner encore et encore et encore. On n'observe pas une amélioration des performances. Souvent, il y a plutôt un effet déclin, c'est-à-dire que les gens deviennent de plus en plus mauvais en réalité. Ce que les sceptiques interprètent comme un retour vers la moyenne. Ils ont eu du bol au départ et puis ils retournent vers la moyenne. Mais c'est quand même marrant que... Vous voyez la limite de l'analogie. D'un côté, on a une compétence, mais avec le psy, ça ne fonctionne pas. Même avec l'entraînement, on n'améliore pas la performance. Donc ça, c'est déjà une première chose qui fait que son analogie échoue. Il propose ses analogies dans La conscience invisible. Hein. Un de ses ouvrages les plus célèbres, c'est le premier qu'il a écrit... pour défendre le fait que l'existence du psy était largement prouvée à l'heure actuelle. Et donc il y a ce premier problème avec le fait que l'entraînement n'améliore pas la performance, donc l'analogie échoue à ce niveau-là. Et la deuxième manière dont l'analogie échoue, c'est que si vous êtes un violoncelliste expert, vos prestations vont varier autour de certaines moyennes, mais donc ça va être... Il y a des jours où vous allez être moins bon que d'autres, mais de manière générale, votre performance sera... en moyenne toujours supérieure à quelqu'un de débutant ou à quelqu'un qui ne sait pas jouer au violon, etc. Par contre, avec le psy, c'est tout à fait différent puisque vous pouvez faire une performance extraordinaire un jour et le lendemain complètement rater la même tâche et puis sur le lendemain faire quelque chose de potable, etc. Les fluctuations sont beaucoup plus importantes et on ne sait jamais prédire. Vous prenez un sujet extrêmement doué, il se pourrait que la prochaine fois que vous le testiez, sa performance soit non significative, donc qu'il n'ait absolument pas réussi à mobiliser le psy. Alors évidemment, les parapsychologues ont des rationalisations pour ce genre de choses en disant « oui, mais ça dépend des émotions que la tâche implique, etc. » Mais quand même, on voit qu'au niveau de l'analogie, ça pose problème, puisque bon, vous allez me dire, un joueur de violon, si quelqu'un lui casse les doigts, forcément le lendemain il ne sera plus joué. Enfin, ça serait plutôt similaire à un médium à qui, on tire une balle dans la tête, mais qui a une lésion cérébrale. Mais, je veux dire, normalement, là, si on a un sujet réellement doué, il devrait performer de manière significative tout le temps, à des seuils élevés tout le temps. Et pas être bon un jour et puis complètement rater la tâche l'autre jour. Ça vaut pour, par exemple, les tests avec les cartes Zener dans ce style-là, mais c'est vrai aussi pour les médiums spirites du 19e. Les tenants d'authentiques processus paranormaux argumentent souvent que les médiums qui sont pris en état de tricherie, bah, c'est parce qu'ils savaient que ce jour-là, ils n'arriveraient pas à matérialiser un ectoplasme, etc. Il y a des jours où ils font vraiment d'authentiques phénomènes paranormaux, mais le lendemain, ils n'y arrivent plus, et donc, ils utiliseraient la tricherie pour combler les spectateurs qui sont venus les voir, ou de ne pas les décevoir. On voit bien que, même si on admet cet argument, bon, évidemment, les sceptiques diront « oui, mais en fait, ils trichent tout le temps. Hein. » Simplement, les jours où on sait qu'ils ont triché, c'est parce qu'ils ont été pris en flagrant délit de tricherie, tandis que les jours où ils sont supposés avoir réalisé d'authentiques phénomènes paranormaux, par exemple, une authentique manifestation ectoplasmique ou un authentique apport, c'est parce qu'on n'a pas détecté la tricherie. Mais je veux dire, si on prend ça, on voit que les variations, encore une fois, il y a des jours où ils y arriveraient de manière extraordinaire et des jours où ils échoueraient complètement. On imagine mal un violoncelliste brillant... faire un jour un concert extraordinaire et le lendemain ne plus être capable de sortir une note de son violoncelle. Or, donc voilà, c'est les deux limites que moi je vois toujours dans cette analogie et qui donc, à mon sens, est quelque peu... elle trompe un peu l'auditeur parce que l'idée c'est de vous faire gober l'argument comme quoi le psy existerait chez tout le monde mais il y aurait des gens extrêmement doués et des gens qui pas doués. Mais alors ils vous sortent cet argument par analogie, mais si l'analogie ne tient pas la route, ça pose problème. Donc voilà, enfin, encore une fois, on va reprendre cette idée, l'idée de cette analogie, l'idée habituelle contre mon parapsychologie, c'est de dire qu'il y a des sujets extrêmement doués, mais le psy serait quand même présent chez tout le monde, à des degrés faibles. On utiliserait tous le psy en permanence, justement ça nous rendrait chanceux ou malchanceux. Et les superstitions seraient des moyens pour les sujets d'utiliser le psy de manière inconsciente. Donc pour reprendre mon exemple du pachinko au Japon, bah si par exemple demain je vais au Japon et bon je crois en la superstition et alors je prends une patte de lapin avec moi pour me donner de la chance, quand je vais aller quand je serai en face de mon pachinko, je mets ma patte de lapin devant l'appareil, et ce que ça va faire, c'est que ça va mobiliser mes capacités psychokinétiques et je vais pouvoir par psychokinèse influencer légèrement la performance, enfin la trajectoire de la balle, et donc la patte de lapin va vraiment réellement m'aider à gagner plus souvent que si j'avais pas la patte de lapin. Donc ça, c'est la dernière interprétation proposée par le livre, l'interprétation parapsychologique qui dirait, mais en réalité, la superstition a un impact réel, même si extrêmement faible, et serait en fait des stratégies qui permettraient aux gens qui ont un faible degré de psy de le mobiliser, mais de manière non consciente. Donc en réalité, selon cette approche, les gens qui se pensent chanceux sont réellement plus chanceux que les autres. Simplement, la chance est simplement le fait qu'ils utilisent le psy, donc les perceptions extrasensorielles, etc., pour se donner un avantage dans les tâches qu'ils essayent d'accomplir. Oui, je n'étais jamais vraiment intéressé aux discussions autour des superstitions auparavant, donc j'ai trouvé ce chapitre vraiment intéressant. Et maintenant, je comprends mieux, il se fait que Richard Wiseman, dont nous parlions dans le dernier épisode, a écrit un ouvrage qui a été publié en français en 2003, qui s'appelle « Notre capital chance, comment l'évaluer et le développer », et donc en anglais, il s'appelle « The Luck Factor ». Et là, c'est un livre qui traite de la chance, mais uniquement sous un angle psychologique. Donc là, je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup. Mais donc, pour les interviews de Richard Wiseman que j'ai entendues, ben simplement, il dit, voilà, il fait des tas de toute une série d'expériences qui montrent que les gens qui se pensent chanceux, par opposition aux gens qui se pensent pas chanceux ou voire carrément malchanceux, ont des comportements différents et que ces comportements font qu'ils ont plus de chance. Donc en gros, ils créent leur propre chance parce qu'ils se pensent chanceux. Ils vont se mettre dans des situations que les gens qui ne se pensent pas chanceux ne se mettraient pas. Et en faisant ça, ils créent donc... c'est pas « aide-toi et Dieu t'aidera », mais ça c'est « aide-toi et la chance t'aidera ». Voilà, donc je peux pas vous en dire plus que ça puisque je ne l'ai pas lu, « The Luck Factor ». Mais maintenant, je comprends mieux. En fait, ce livre ne traite pas du tout de parapsychologie, purement 100% de la psychologie, mais en fait, c'est aussi une réponse, en quelque sorte, à cette idée des parapsychologues que la chance, être chanceux ou les actes superstitieux seraient des manifestations du psy à minima, en sourdine et non consciente. Du coup, maintenant que j'ai lu ce chapitre sur la superstition, ça me donne vraiment envie de lire le livre de Richard Wiseman, « The Luck Factor », pour voir comment lui il aborde ça sous un angle psychologique et qu'il explique que les gens qui se croient chanceux sont entre guillemets réellement plus chanceux, mais pour des raisons purement comportementales. Si je le lis, je vous en dirai forcément un mot, certainement un mot sur le blog. Voilà, donc là c'était le chapitre 4 du livre consacré à la psychologie anomalistique. Et pour terminer cet épisode, je vais vous proposer un petit extrait audio d'un autre podcast en anglais qui s'appelle The Human Bible, donc la Bible humaine, qui est un podcast réalisé par Robert M. Price, le théologien athée dont je vous parle souvent sur le balado. Il vient de commencer un nouveau podcast pour le Center for Inquiry, Centre pour la Recherche ou l'Investigation. Et contrairement à son podcast originel, The Bible Geek, The Human Bible, la Bible humaine, est vraiment très très pédagogique. Il fait vraiment un effort pour expliquer, parce que moi j'ai toujours été fan de Robert M. Price, mais quand on n'a pas une vaste culture théologique comme lui a, il a une culture encyclopédique, ou en archéologie, etc., ou en histoire, on est parfois un peu largué dans ces discussions, mais là vraiment dans The Human Bible, il essaye vraiment de reprendre les bases de la critique historique, enfin, on pourrait dire de l'approche sceptique de la Bible ou de la théologie. Et on peut lui poser des questions, donc je vais poser une question et je vais juste vous passer, pour terminer cet épisode, l'audio en anglais de sa réponse à ma question, qui dure donc quelques minutes maximum. Et donc ma question, c'était liée à l'usage dans l'Ancien Testament, particulièrement dans la Genèse, du concept d'Elohim. Donc vous savez, enfin vous ne savez pas, mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a différents mots qui sont utilisés pour désigner Dieu. Et dans les textes, certains des textes les plus anciens de l'Ancien Testament, on parle d'Elohim, et alors c'est un pluriel. C'est comme si on disait les dieux. Alors l'interprétation la plus farfelue, c'est celle qu'on trouve chez les Raéliens, qui défendent la théorie des anciens astronautes, c'est-à-dire que des extraterrestres visiteraient notre planète depuis l'aube de l'humanité, enfin ils auraient créé l'humanité, et ils disent, ben voilà, quand la Bible parle des Elohim, en fait ils parlent de ces extraterrestres, c'est le nom de cette espèce extraterrestre. D'où le fait que cette question m'intéresse particulièrement. Mais j'avais une idée de sa réponse, parce qu'il avait déjà touché le sujet un peu dans The Bible Geek. Mais alors la vraie question que j'avais, c'est que... Donc il y a deux options, et je voulais savoir ce qu'il pensait. La première, si vous consultez un livre de théologie, ils vont vous dire, ben oui, en fait c'est Elohim, c'est pas des extraterrestres, c'est l'équivalent d'un nous majestatif. Alors le nous majestatif, c'est parler de soi-même au pluriel. Si vous écrivez, par exemple, une thèse de doctorat ou un article scientifique, vous allez dire, nous pensons que, oui, mais en réalité, c'est vous qui pensez ça. Donc le nous est un équivalent de je. Si vous dites je pense que, mais le je est détestable dans les écrits, dans les essais sérieux, donc on dit nous. C'est une figure de style. Enfin, évidemment, vous pouvez dire nous, parce qu'il y a plusieurs auteurs, mais dans le cas où il n'y a qu'un seul auteur et que c'est vous, bah, vous dites nous, mais en fait, vous voulez dire je. Donc c'est ce qu'on appelle en français un nous majestatif. Mais alors, évidemment, on peut s'imaginer que pour marquer le respect, enfin je dis... bon, pour rigoler, on peut dire oui, bah, en fait, quand il y a Elohim, c'est Dieu qui parle de lui à la troisième personne, un peu comme César, dans Astérix Obélix, hein, César a dit que... Mais en fait, bon, là, l'idée serait plutôt plus sérieusement... que les auteurs des textes au début de l'Ancien Testament, par respect, préféraient utiliser un pluriel pour parler de Dieu. Voilà, on peut vraiment trouver, si on veut pousser l'interprétation très loin, mais c'est franchement, enfin, ça ne tient pas la route, c'est dire, oui, en fait, c'est la Trinité, puisqu'ils sont trois à ce moment-là, ils sont trois en un. Mais évidemment, l'idée de la Trinité, elle n'apparaît même pas réellement dans la Bible, c'est une construction bien plus tardive, donc... L'idée que les auteurs des textes les plus anciens de l'Ancien Testament aient déjà une conception de la Trinité est complètement absurde. Donc ça, c'est ce qu'on dit généralement, c'est que c'est un nous majestatif. Mais j'avais une autre idée qui venait de Robert M. Price, qui disait « En fait, ces Elohim, c'est simplement la trace d'un polythéisme primitif. Ces textes sont tellement anciens qu'en réalité, ils font référence à des dieux, parce qu'à l'époque, les Hébreux, ils croyaient dans des dieux. Et alors, quand ces textes ont été incorporés dans le canon de la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament, bah, ils ont essayé de les adapter, de les peaufiner un peu pour que ça fasse comme s'ils parlaient d'un dieu monothéiste. Mais en fait, on peut encore trouver des sortes de traces du polythéisme primitif. Et donc, je voulais savoir son opinion là-dessus, et particulièrement, est-ce qu'il rejetait complètement l'interprétation par le nous majestatif, et qu'est-ce qu'il en pensait ? Voilà, donc je vais vous passer l'audio de sa réponse. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison.
Well, we've another question here. Jean-Michel asks, in episode 2, you mentioned the word Elohim. Rael from the Raelian cult claims it's the name of an alien race. More seriously, I've read, it's God talking about himself in the plural. Or is it a linguistic artifact from the time Jewish people were polytheists? What's your take on it? You know, this Raelian thing, let me just say... I don't think there's any evidence for it, but the notion that the human race was seeded by aliens like on Star Trek, that's not absurd, but is there any evidence for it, right? That's the historian wants to know not what is possible, but what is probable, F.C. Bauer said. So I don't mean to dismiss such an idea as lunatic. Again, any reason to believe it? That's another question, but not absurd, right? Now, you remember, was it the early 90s? This woman from the Raelian sect appeared at a press conference saying that they had just managed to clone a human being. And, of course, they hadn't. You never heard any more about it. You didn't really need to find out anymore. This was what I call the epistemology of the haircut. I realize that that in some cases, you just need to look at somebody's hair. This woman had this crazy, multicolored, dyed fright wig of a hairdo. And I don't care what she's saying there at the podium. I don't care if she correctly explains Einstein's theory of relativity. She's gone, right? If somebody like this makes a big claim like cloning, forget it. You don't need to take it seriously. Just look at that hair. Anyway, sorry. So could the Elohim have been space aliens? Well, you know, to be fair again, what the ancients described as gods, you know, if you told them, look, you're all wrong. Those people were just invaders from space. They had superior technology. They had deadly weapons that you can't even imagine. They rode in vehicles through the stars. They were like us, but more powerful, like, you know, Kirk and Spock. They show up on a primitive planet. People think they're gods. Well, of course, the primitives would say, well, yeah, that's what we mean by gods, right? These people weren't Thomas Aquinas and St. Anselm. They weren't Paul Tillich. So in a way, there's not much of a difference, right? The ancient gods were born and could die. They had to be nourished, all that kind of thing, right? So it's not that different than what the ancients were saying, okay? But what did the Bible writers mean by Elohim? Because it is a plural ending, right? The singular is just El, E-L in English. So what does it mean? It's a favorite tactic of conservatives to say, oh, well, of course, they were always monotheists. And so when the plural ending is used, it's sort of an abstraction of majesty. I think there's some linguistic basis for that. It could possibly mean that, but there are a handful of places in the Old Testament in Hebrew where there are plural verbs or adjectives used, so that it has to mean the gods, but the reference is to the Hebrew God in the context. And it makes you wonder if scribes had edited out an original reference to gods when they were trying to accommodate the scripture to a brand new doctrine of monotheism pretty late in the day. It would be what Mark Goodacre calls editorial fatigue. Missed a few places. But anyway, you cut it. It's very obvious, for instance, in the seven-day creation story and the Garden of Eden story that there are gods. And for instance, let us make man in our image. And thus they were made male and female. Well, it's got to mean that there were gods and goddesses, or even more so in the Garden of Eden story. Behold, they've eaten the fruit and their eyes have been opened. They've become like one of us. That ain't the royal we. That's not the editorial we. You know, of course, presidential candidates believe that they're gods, and that's why they're always saying, oh, we're considering it. Well, how many? I only see one of you. But in these passages, it's pretty clear originally it was gods. Some people say, well, that's the Trinity. Come on. There's no way any ancient reader could have understood such a reference. Yeah, okay. So much for the God and the gods.
Thank you.